18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur BFM.
Ouais, on va être indulgent avec Anthony. Voilà. Il fait ses armes, c'est normal. Allez, bonsoir à tous, bienvenue, c'est parti, vous le savez, pour le magazine Les Informés, votre émission tous les soirs de 18h à 19h30, c'est votre magazine au sommaire de cette émission. Nous allons accueillir donc l'interview concernant le sommet de la francophonie de Djerba qui se tient dans quelques jours, la semaine prochaine précisément, et on en parle justement parce qu'il y a un enjeu, c'est tous les chefs d'État et gouvernements francophones qui se retrouvent et qui parlent évidemment des sujets qui préoccupent. Ensuite, après 18h30, c'est le Quoi de Neuf. D'abord, vous avant. 01 53 48 3000. Nous parlerons, vous savez quoi ? Eh bien, d'un sujet, celui des professeurs qui sont menacés de mort de plus en plus. On en parlera. Et puis, avec vos enfants, est-ce que vous avez des liens directs, notamment de discussion, de dialogue, d'échange entre ce qui se déroule à l'école, ce qui se raconte avec les copains, etc. Est-ce que vous nouez un dialogue régulier, permanent avec vos enfants ? On en parlera tout à l'heure. Justement au 01 53 48 3000 à partir de 18h15. Ensuite, le face-à-face qui réunit des débatteurs influenceurs. On reviendra sur les sujets qui, eux, bousculent l'actualité. On parlera de la précarité, maltraitance. Justement, ça concerne les élèves infirmiers qui abandonnent leurs études. Pourquoi ? Parce que, voilà, ils sont 20%, ça craque. Bon, on en parlera tout à l'heure parce que c'est aussi un sujet. Là, on parle de médecins, 10% et 20% concernant les infirmiers. Effectivement. Bon, on vous expliquera tout cela et à ce renoncement. Océane Viking, c'est l'Italie et la colère, la tension qui ne cesse de grandir entre la France et l'Italie concernant les migrants. On en parle aussi avec les débatteurs influenceurs. On viendra sur la grève de demain. Préparez-vous, chers amis. Si vous êtes tributaire, eh bien, sachez que la moitié des lignes de métro sont fermées, les RER perturbés et surtout on parlera de la revalorisation des salaires. Et puis on reviendra sur l'actualité des États-Unis avec notamment les mi-mandats. Où en est-on précisément de ce scrutin et le dépouillement qui se poursuit. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti, vous le savez, pour la fameuse interview du jour concernant la francophonie à Djerba. C'est parti.
Les Informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Raïd Chaibi, qui est le président de l'association de la coopération franco-tunisienne. Bonjour Raïd Chaibi.
Bonsoir Adil Farkan.
Comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Bon, très bien, je vous remercie infiniment. Vous êtes là en tant que présidente de votre association de la coopération franco-tunisienne. Justement, il se trouve que la Tunisie accueille prochainement, les 19 et 20 novembre 2022, ça se passe la semaine prochaine, les chefs d'État et gouvernement francophones, ça se passe à Djerba. Et il s'agit là de la 18e sommet de la francophonie. Alors, que va-t-il d'abord se dérouler dans le cadre de ce 18e sommet de la francophonie qui se tient à Djerba? Comment s'annonce-t-il?
Je pense que ça sera une réussite puisque le sommet se déroule en Tunisie, un des pays fondateurs de la francophonie, sur une thématique très importante qui est la thématique du numérique, mais où également il sera également question de francophonie économique. Mmh. Donc c'est un enjeu et puis assez majeur. D'autant que le sommet devait avoir lieu en 2020, puis reporté à 2021, puis reporté à 2022. Exact. Donc enfin, on va pouvoir célébrer ce grand moment, de fête, mais également de réflexion sur ce que doit être la francophonie post-crise Covid, j'ai envie de dire. Et donc, c'est un très très grand plaisir de voir la Tunisie accueillir cet événement. Et je profite, si vous le permettez, Adil Farkan.
Bien sûr, allez-y, je vous en prie.
J'en profite pour vraiment tirer un grand coup de chapeau aux autorités tunisiennes
qui organisent
ce sommet en lien bien sûr avec l'Organisation internationale de la francophonie qui ont fait en sorte dans un contexte pas forcément évident on sait que la grave crise économique est celle qui frappe la Tunisie, la crise sanitaire qui a eu un impact considérable sur le pays et malgré tout les équipes ont fait en sorte de garantir le succès de cet événement. Donc je tirerai un grand coup de chapeau au comité d'organisation du sommet mais également à ceux qui organisent en marge du sommet le forum économique. Je pense notamment à l'AFIPA, qui est l'agence tunisienne pour la promotion de l'investissement extérieur. Je pense à la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis. Et je pense également à la centrale patronale, l'UTICA, qui ont tout mis en œuvre pour garantir le succès du Forum économique.
Justement.
Et je n'oublie pas également que en marge du sommet, et ça débutera d'ailleurs dès le 13 novembre, il y aura le village de la francophonie qui sera le moment phare culturel, artisanal, un moment où toutes les sociétés civiles pourront se regrouper et se retrouver.
Justement, Raed Chaibi, Monsieur le Président, vous savez, c'est aussi Djerba, ce sommet de Djerba marque le début, me semble-t-il, de la présidence tunisienne de la francophonie.
Tout à fait, la Tunisie va...
Par le président de la République.
Tout à fait, la Tunisie va
Kais
tenir...
Saïd.
Tout à fait, la Tunisie va tenir la présidence pendant 2 ans jusqu'au...
Les deux prochaines années.
Voilà, pendant 2 ans, jusqu'au prochain sommet qui aura lieu en 2024. Et donc, c'est très important. Et puis, j'ai envie de dire, comme je suis président d'une association qui a pour but, justement, de promouvoir l'amitié franco-tunisienne, mais dans franco-tunisienne, il y a tunisienne, il y a Tunisie, ça sera, je dirais, l'occasion formidable de pouvoir mettre en pratique, définir, ou en tout cas porter les initiatives que nous souhaitons mettre en œuvre à travers...
Qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre? C'est sceller quoi au juste? Bâtir quoi?
Alors,
au juste, justement. C'est quoi? C'est un partenariat entre l'Afrique, l'Europe, qui est déjà privilégié.
Disons qu'avec notre association, mais aussi en lien avec un certain nombre d'acteurs de la société civile, des acteurs économiques, des élus locaux, des acteurs académiques, nous avions lancé il y a 2 ans une initiative, il y a 3 ans même, bien avant le Covid, qui s'appelait le Sommet des Amis de la Francophonie. Initialement, l'objectif était de regrouper les diasporas francophones, parce qu'on ne se parle pas assez, et puis d'essayer de porter des initiatives communes dans l'espace francophone. Et puis le Covid est passé par là, avec les conséquences que l'on connaît, on ne va pas revenir dessus, et nous avions souhaité élargir cette initiative aux acteurs économiques, aux acteurs académiques, aux élus locaux, parce que nous considérions que la francophonie peut être une réponse à la crise que nous sommes en train de traverser et qu'elle peut être, et je dirais même, elle doit être un levier de développement. Et c'est la raison pour laquelle, avec toutes ces discussions, ces échanges que l'on a eus avec l'ensemble de ces acteurs, nous avons mis sur pied un plaidoyer qui appelle à construire un nouveau modèle.
On va en
modèle,
parler de ce plaidoyer, on va en parler justement,
qui appelle
si
à
vous
construire
permettez.
Un nouveau
est-ce
modèle de coopération
sommet,
au sein de l'espace francophone.
Est-ce que ce sommet, ce 18e sommet, justement, de la francophonie, n'est-ce pas aussi l'occasion de tout simplement repenser la stratégie, repenser les relations francophones
bien sûr, bien sûr, pour une raison très simple. C'est un lien aussi quelque part avec le plaidoyer que l'on porte.
Quand on voit la géopolitique mondiale,
on aura l'occasion d'en parler. Mais vous savez, la francophonie, beaucoup en parlent comme si c'était un idéal, ou alors essayent un petit peu de la torpiller en disant c'est uniquement un regroupement de chefs d'État qui parlent et il n'y a rien derrière. Je voudrais juste dire que la francophonie, c'est une institution intergouvernementale qui a 52 ans, ce n'est pas rien, qui a 52 ans, qui regroupe 88 pays, il y a 300 millions de locuteurs dans le monde, les prévisions, c'est un espace francophone qui sera composé de 750 millions de locuteurs à l'horizon 2050, et près de 1 milliard en 2065, et près de 90% de ces locuteurs sont et seront sur le continent africain. Donc évidemment qu'il y a matière à repenser, je dirais, notre manière de coopérer au sein de l'espace francophone, et de dire que aux côtés de l'OIF, aux côtés de la secrétaire générale, aux côtés des institutions, il y a la société civile, et c'est ensemble, communément, qu'on va bâtir un nouveau modèle au sein de l'espace francophone et un nouveau modèle coopératif.
Là, vous faisiez référence à la madame la secrétaire générale, madame Louise Mouchikiwi Abo. Voilà.
Tout à fait.
Comme
Louise
ça, on l'aura dit. Absolument. Dites-moi, vous avez parlé d'un plaidoyer.
Tout à fait.
On va en parler. Ce plaidoyer, construire ensemble un nouveau modèle de coopération, dans l'espace francophone. C'est votre plaidoyer?
Ce n'est pas mon plaidoyer, c'est le plaidoyer, certes à l'initiative de l'APCAF, donc mon association, mais qui a été co-construit, co-bâti, co-réfléchi avec un certain nombre d'acteurs de la société civile dans divers domaines, des acteurs économiques, des acteurs académiques, des élus locaux, des acteurs associatifs, des acteurs représentant les diasporas, et on avait voulu réfléchir à ce que doit être la francophonie justement de l'après-crise sanitaire.
Pourquoi profiter de ce sommet pour faire porter un plaidoyer?
Bah parce que c'est le moment ou jamais.
C'est le moment ou jamais.
C'est-à-dire que l'idée, on a toujours tendance à profiter des sommets pour remettre un plaidoyer et puis ensuite prendre son avion et repartir. Nous, ce qu'on veut, c'est de dire que ce plaidoyer, c'est pas, je dirais que Djerba n'est pas l'aboutissement du plaidoyer, mais c'est le commencement. C'est-à-dire que Djerba doit être le point de départ de ce nouveau modèle auquel on aspire. Et donc, ce plaidoyer appelle à construire, comme vous l'avez dit,
qu'est-ce
un nouveau modèle de coopération.
Justement,
il appelle à construire un nouveau modèle de coopération au sein de l'espace francophone qui se base sur trois piliers. L'ouverture vers la société civile, c'est-à-dire une ouverture élargie vers la société civile pour construire, pour bâtir un écosystème associatif entre les cinq continents et construire des initiatives communes.
Oui.
Deuxièmement, à créer une synergie avec l'ensemble des acteurs économiques, parce qu'on a une multitude d'acteurs économiques qui agissent au quotidien. Je pense au Forum francophone des affaires, au groupement, oui, du patronat francophone, à l'Alliance des patronats francophones, plus toutes les chambres de commerce, toutes les chambres consulaires, tous ces opérateurs économiques qui agissent. Et donc, l'idée, c'est de dire, mais construisons une stratégie commune pour, je dirais, créer une croissance solidaire et partagée. C'est la raison pour laquelle on propose notamment de créer une communauté économique francophone et puis surtout de mettre l'économie au service de la solidarité. Et c'est aussi le sens de la proposition que nous faisons de créer un fonds d'action pour l'investissement solidaire pour dire, et c'est d'ailleurs le sens également de l'engagement de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo, que dans ces actions de solidarité, il faut qu'il y ait évidemment le soutien des États, mais également le soutien des acteurs économiques. C'est le sens de ce fonds d'action pour l'investissement solidaire.
Il est ambitieux, ce plaidoyer.
C'est le but, mais il faut aussi qu'on le mette en pratique et on profitera de ces deux années de présidence tunisienne et même bien après. Et enfin, le troisième pilier, c'est le partenariat renforcé avec les collectivités locales, parce que nous avons la conviction qu'il faut construire une francophonie des territoires, qu'il faut responsabiliser les collectivités, les inciter à nos côtés à promouvoir la francophonie au sein des territoires et surtout de bâtir une coopération décentralisée élargie, c'est-à-dire une coopération où nous avons les collectivités, bien sûr, qui sont à la manœuvre, mais que cette coopération, puis on puisse y associer les acteurs associatifs et les acteurs économiques. C'est pour ça que je parle de trois piliers. C'est ce que l'on souhaite faire et ce que l'on souhaite proposer aux chefs d'État et de gouvernement, et bien sûr à Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, qui, je le rappelle...
Donc vous y serez alors ?
J'y serai, je pars d'ailleurs mardi prochain. Et ce que l'on souhaite, c'est de dire à...
Vous avez fixé d'ores et déjà des rendez-vous avec des acteurs?
Il y a des demandes d'entretien qui sont en cours et j'ai plutôt bon espoir, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas les compromettre. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en cours. Mais ce que l'on souhaite, c'est que on souhaite sensibiliser bien sûr la présidence de la République tunisienne, puisque c'est le pays hôte du sommet. On souhaite sensibiliser la secrétaire générale de la francophonie, qui quand même a eu un mandat qui a été quand même parsemé, qui a été compliqué à cause du Covid, mais qui a fait en sorte de porter la voix de l'OIF au sein des différentes instances internationales. Et ça, il faut l'accompagner et l'amplifier. Et puis, surtout, sensibiliser les chefs d'État et de gouvernement qui seront présents le maximum pour dire que la francophonie, c'est un héritage des pères fondateurs, des présidents Bourguiba, Senghor du Sénégal, Hamani Diori du Niger.
Absolument.
C'est un héritage à porter, à transmettre et construire surtout une francophonie levier de développement.
Dites-moi, Raed Chaibi, monsieur le président, justement, vous, de la coopération franco-tunisienne, ce plaidoyer, qu'est-ce que vous attendez de ce plaidoyer et qu'est-ce que vous espérez justement durant ce sommet?
Alors, nous, notre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de sensibiliser le maximum de chefs d'État et de gouvernement et également l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, c'est vraiment de faire en sorte d'associer sur place le maximum d'acteurs, mais que ce soit le commencement. C'est-à-dire que, en repartant de Djerba, je vais pas me dire, on a accompli notre objectif. Non, c'est de dire, on commence. Et c'est à partir de Djerba et pendant les deux années où la Tunisie va assurer la présidence et même bien plus tard, c'est de faire en sorte petit à petit de mettre en place ces initiatives que nous portons dans ce plaidoyer.
Donc trois piliers, ouverture vers la société civile, synergie des acteurs économiques, partenariat renforcé avec les collectivités donc locales.
Tout
ça c'est un budget, c'est des moyens.
C'est des moyens, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que quand on parle de synergie des acteurs économiques et de la nécessité de regrouper et de faire en sorte qu'il y ait une stratégie commune qui associe les structures associatives, la société civile, qui associe les collectivités locales, qui associe les acteurs économiques, c'est, et aux côtés, bien sûr, des acteurs institutionnels, des États, c'est comme ça qu'on arrivera à bâtir une stratégie pour faire de la francophonie un levier de développement. J'ajoute par ailleurs que quand on parle de francophonie, c'est pas simplement la culture française et la langue française, très importante, bien sûr, mais c'est aussi la francophonie économique. Bâtir une stratégie économique qui soit vecteur d'une croissance partagée et qui soit au service de la solidarité, c'est ce qu'on veut promouvoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas Raed Chaibi qui le dit, ou modestement l'APCAF qui le dit, c'est dans la stratégie économique 2020-2025 qui a été adoptée par la conférence ministérielle de la francophonie, qui réunit l'ensemble des ministres des Affaires étrangères, et qui elle-même reprend ce qui a été la déclaration finale des chefs d'État et de gouvernement lorsqu'ils se sont réunis au sommet de la francophonie de Dakar en 2014.
Quand on connaît les tensions qu'il y a en ce moment, même avec la France et l'Afrique, comment retisser ce lien, justement ?
À travers la société civile.
Parce que je suis d'accord avec vous, mais on n'est pas sans ignorer qu'il y a aujourd'hui une véritable tension.
Mais on ne la nie pas. On dit simplement que s'il y a des tensions entre les États, ce qui est le cas, il n'y a pas forcément de tension entre les peuples et entre la société civile. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est que entre les chefs d'État, qu'il y ait des tensions entre les États, etc., ça peut arriver. Il n'y a pas de problème. C'est, j'ai envie de dire, c'est la vie courante de la politique et des institutions. Mais simplement, entre la société civile, on ne doit pas rompre ce dialogue et on doit justement se réapproprier, s'approprier. On doit également porter cette flamme parce que nous sommes également ces héritiers des pères fondateurs de la francophonie.
Le dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent ?
Eh bien, qu'on doit construire cette francophonie telle que le président Bourguiba, je cite le président Bourguiba parce que c'est la Tunisie, lorsqu'il avait dit lors de son fabuleux discours du 11 mai 1968 à Montréal, en parlant de la francophonie, que c'est cet empire de l'esprit et de l'intelligence sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et ça a un sens.
Eh bien, écoutez, rendez-vous donné, on l'aura compris. À Djerba, la 38e session extraordinaire donc de ce 18e sommet des chefs d'État qui se retrouve donc à Djerba, gouvernement, ministre, évidemment, et vous-même, vous y serez avec votre plaidoyer, on l'aura compris, le 19 et le 20 novembre. Eh bien, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Vous, président de l'association et de la coopération franco-tunisienne. Merci, monsieur le président.
Merci.
On se retourne dans une poignée de minutes, messieurs et dames. Et justement, au 01 53 48 3000. On parle de cette relation avec vos enfants et notamment et l'école. A tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, vous le savez, 18h23, nous ouvrons l'antenne. C'est parti, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000.
Ah
les
là
informés
là,
vous donnent la parole.
Justement, je voudrais vous entendre. Le standard est ouvert. Anthony vous attend. 01 53 48 3000. Je voudrais parler des relations que vous avez avec vos enfants, notamment au collège plus précisément et au lycée. Est-ce que vous entretenez des relations privilégiées, c'est-à-dire est-ce que vous dialoguez suffisamment avec eux ? Quand on voit aussi encore la récente évidemment actualité, le professeur menacé de mort, notamment on a une fréquence à Rouen et on a des auditeurs que je voudrais entendre aussi de Rouen, menacé de mort par un parent d'élève près de Rouen qui témoigne pour la première fois. Vous savez, il a témoigné là récemment, il y a quelques heures, justement, où il dit « Je ne me vois pas revenir dans cet établissement tout simplement parce que je ne veux pas être un deuxième Samuel Paty. » Alors je me dis, quelque part, dans ce lycée à Grand Quevilly, près de Rouen, au lycée Val-de-Seine, il s'est passé donc cette actualité hein, en référence à Samuel Paty. Et je voudrais qu'on en parle parce que, tout simplement, est-ce que vous parlez avec vos enfants. Est-ce que vos enfants vous racontent tout ce qui se passe à l'école? Est-ce que vous leur faites confiance ou vous dites, vous les laissez partir au collège ou au lycée? Voilà, comme tous les jours, lorsqu'ils fréquentent aussi leurs potes, copains, dans l'entourage, lorsqu'ils sont aussi en dehors de l'école, de l'établissement scolaire, est-ce que vous privilégiez un dialogue permanent avec eux, 01 53 48 3000, ou au contraire, vous les laissez libres à eux-mêmes, c'est-à-dire libre, tout simplement, ça veut dire que vous les laissez, vous leur faites confiance. Et cette confiance, est-ce qu'à un moment donné, elle ne risque pas de se retourner contre vous? Je vous attends, 01 53 48 3000, partout en France. Je voudrais vous entendre, notamment, venir nous parler de cela. Parce que c'est aussi un sujet d'actualité. Parce que le Grand Quevilly, qui est près d'Oran, figurez-vous qu'il y a eu cet accrochage avec un parent d'élève et un professeur qui l'a menacé de mort, tout simplement, qui affirme avoir été menacé de mort et qui a désormais, hein, vous savez, il n'y va plus du tout, qui a peur et qui se dit, j'ai peur parce que tout simplement, je ne veux pas finir comme Samuel Paty. Est-ce que ça, vous le comprenez? Est-ce que vous en parlez aussi? Quels sont les liens que vous avez aussi avec les différents profs pour éviter évidemment les dérapages qu'on voit de façon permanente et dans notre quotidien. 01, je vous attends, hein. D'ailleurs Anthony vous attend, moi je vous attends en direct, mais Anthony vous attend au standard. 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
En gros, la question, vous savez, sur cet événement au Grand Quevilly, près de Rouen, eh bien, vous savez que c'était un homme en question qui était le père d'un élève de 16 ans qui souffrirait de problèmes de dyslexie. Le problème, c'est que, vous savez, le professeur ignorait qu'il avait de la dyslexie et voilà, qu'il place ses élèves dans l'ordre alphabétique et à un moment, eh bien, vous savez quoi, l'élève se terminant par Z, la jeune fille avait du mal à suivre les cours du fond de la classe. Face au professeur, sachez-le, le parent d'élève hausse le ton, se montre un peu agressif. Vous prenez ma fille pour une merde, vous avez mal parlé à vos élèves. Avant de sortir de la salle, il me pointe du doigt et hurle, si vous continuez comme ça avec ma fille, je vais vous décrocher la tête. Est-ce que c'est montrer de l'exemple quand on est parent d'élève, franchement? Est-ce qu'on doit parler comme ça devant tous les gamins de la classe et menacer le professeur de cette, de la sorte? J'avoue que je vais vous décrocher la tête, c'est quand même violent à entendre. Surtout si vous le dites devant les autres enfants. Et surtout si vous dites ça, évidemment, ça là, clairement, c'est une menace. Bref, depuis cet événement, eh bien, le professeur est en arrêt maladie. Bon, eh bien, écoutez, il a le soutien. En tout cas, je peux vous le dire que son état psychologique est jugé aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, extrêmement fragile pour reprendre les cours. Et il précise qu'il n'ose pas revenir, il n'ose plus du tout revenir parce qu'il a peur des représailles et qu'il a peur de finir comme Samuel Paty. Je venais en parler au 01 53 48 3000. C'est un sujet qui nous concerne, hein, vous le savez, partout, partout. Dans tous les collèges, lycées, vos enfants le vivent en permanence, ça, y compris vous, parents d'élèves. Tiens, je vais accueillir Lola. Lola qui nous appelle de Paris.
Oui, allô ?
Bonjour Lola.
Oui, bonjour.
Bienvenue Lola. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je travaille dans le domaine de la remise en forme.
La remise en forme, je vous écoute ma chère Lola. Alors cette histoire terrible justement au Grand Quevilly à Rouen. Les parents ont aussi un rôle à jouer, hein ?
Bah écoutez, moi je suis maman de deux enfants, dont un adolescent.
Oui.
Et effectivement, je pense que... Alors, moi, j'ai deux visions. La première, c'est qu'on peut avoir un suivi très, 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 très proche de l'enfant, c'est-à-dire oui. suivi des devoirs, contrôle des sorties, ce genre de choses.
Oui.
Et que parallèlement à ça, eh ben, il puisse y avoir des failles.
Oui.
Après, ça, c'est le point d'interrogation que beaucoup de gens se posent.
Vous ne maîtrisez pas tout, quoi.
Tout à fait. On ne peut pas tout maîtriser. Au même titre qu'un enfant avec une éducation parfaite peut partir en vrille, ça peut arriver. Voilà, ça c'est le risque qu'il peut y avoir. Le risque zéro n'existe pas. Ensuite, il y a le second profil qui est le laisser-aller. Le laisser-aller des parents. Je le développe. Le laisser-aller des parents.
Ça veut dire quoi ?
Le laisser-aller des parents, c'est qu'on peut avoir éduqué son enfant. Enfin, il y en a qui confondent éduquer leur donner à manger, les soigner, ce genre de choses, sans prêter attention aux devoirs, au contrôle, aux sorties, au téléphone et ce genre de choses.
Ouais.
Il est là le problème en réalité.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce que un enfant, c'est quoi ? Un enfant, c'est de l'écouter, de surveiller ce qu'il fait de près, de loin, ou voilà. Et aussi, malheureusement, je dis malheureusement et je développerai pourquoi, surveiller les fréquentations. Parce qu'un enfant peut être très bien avec les fréquentations, évidemment, tout peut partir très très vite.
Ouais.
C'est la chute libre. Donc voilà, donc surveiller sur.
Vous avez raison, ça peut aller très vite, oui.
Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai vu, il y a des mamans qui sont très, très proches de leurs enfants. Quand je dis proche, c'est surveillance, hein, parce qu'on peut être proche des enfants et ne pas avoir le nez dans les bouquins des enfants, le suivi et autres. Mais ça, c'est c'est culturel, après. Après, ça dépend. Je pense que culturellement, on peut avoir une éducation où on peut se dire, bon, c'est pas grave, laisser aller sur certaines choses. Voilà. Comme par exemple...
Eh bien.
Un enfant qui sort à l'extérieur, dehors, à une certaine heure. Donc, extérieur, j'entends, à partir de 18h, 19h, un enfant n'a rien à faire à l'extérieur. Si ce n'est pas pour aller au sport ou autre, il n'a rien à faire dehors. On est bien d'accord.
Oui.
Voilà. À partir du moment où il y a un enfant qui est dehors, c'est là où tout commence, en fait. Le problème, il commence là. Tous les coups sont permis. Ça peut dire il peut avoir des mauvaises rencontres. Voilà, mauvaises rencontres, engrainage.
Oui, oui.
Et voilà, ça fait boule de neige et c'est parti pour...
Vous avez raison de le rappeler, c'est vrai Lola, c'est vrai, effectivement.
Bah, évidemment, oui, c'est pour ça qu'on montre du doigt.
J'entends de ce que vous dites qu'on ne peut pas tout maîtriser. Hein. Que
on
parfois il y a des choses,
maîtriser.
Vous, parents, qui vous échappent.
Tout à fait, et on ne peut pas toujours aussi accuser les parents. Les parents ont un devoir, c'est-à-dire un devoir de parent. Hein,
devoir d'éducation, c'est surtout. Bah oui, le parent, ça fait quoi ? Ça éduque.
Ça éduque, tout à fait, ça c'est à l'écoute, il faut communiquer, surveiller, accompagner un enfant. Mais, je dis bien mais, c'est vraiment les fréquentations. Moi, je pense que c'est la, c'est vraiment la source des problèmes, quoi.
Ouais, la source des problèmes. Bon, bah, écoutez, d'autres parents, évidemment, réagiront. Merci Lola d'être intervenue. Très important ce que vous dites.
Ben écoutez, je vous remercie. Surtout si ça peut aider d'autres mamans qui sont dans ce fléau-là avec les enfants.
Il y en a. Ben justement, tiens, je voudrais les entendre. S'il y a des mamans qui sont dépassées par l'éducation et leurs enfants, je voudrais les entendre aussi, voir comment elles gèrent tout cela au quotidien. Merci Lola.
Bonne soirée, au revoir.
Merci, très excellente soirée. Je viendrai accueillir justement, juste après le Quoi de Neuf et notre docteur, Faïda de Lyon, Myriam qui nous appelle de Limoges, tous les autres 01 53 48 3000, je vous attends. Tout de suite, c'est parti, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est comme chaque vendredi, justement, avec le docteur Majid Seoussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides chez les militaires et au SAMU. Mon cher docteur, c'est un plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous?
Bah écoutez, pas trop mal, c'est un plaisir chaque fois partagé d'être avec vous.
Avant de retrouver, partagez aussi mon cher docteur, avant de retrouver justement votre billet d'humeur, il paraît-il que ça devient préoccupant de plus en plus quand on voit évidemment cette actualité aujourd'hui, les 10% de médecins, étudiants je parle, les 20% d'étudiants, d'infirmiers qui ont décidé tout simplement de rendre leur tablier parce que il y a un problème de maltraitance, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, et de précarité.
Bah, la précarité.
Et ils abandonnent leurs études, tout simplement.
Ouais. La maltraitance, sans doute, oui. La désagrégation du système de santé fait que les conditions de prise en charge des patients, elles sont beaucoup moins bonnes, sont souvent à la limite du tolérable et de l'acceptable pour un pays développé, ce qui fait qu'effectivement, dans certains cas, on parle tous de maltraitance. Ouais, oui, je suis assez d'accord sur la question de la maltraitance.
Eh ben, on en parlera tout à l'heure. C'est un des sujets qui a retenu notre attention. Votre billet d'humeur, le Quoi de Neuf, cette fois-ci, c'est Voltaire et le Club des 27. Hâte, on vous écoute.
Eh ben écoutez, mon cher Adil, chaque semaine désormais nous amène son scandale comme les vagues déposent les décès rejetés par la mer. Cette semaine, notre ministre de la Transition énergétique a été prise la main dans le sac du supposé conflit d'intérêts, puisqu'on apprend qu'elle n'a pas évoqué dans sa déclaration que ses enfants étaient associés à une société pétrolière liée à un paradis fiscal par le biais d'une firme dont son père fut PDG. Mmh. C'est vrai que ça fait un peu désordre. Mmh. Mais Adil, je vous ai exhumé un précédent célèbre, Voltaire. Qui dans Candide dénonce l'esclavage avec le fameux passage sur le nègre du Suriname, que je vous cite. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe.
Exactement.
Eh bien, Voltaire, qui aimait beaucoup le sucre et le café, produit dans le cadre de la traite négrière, avait en plus des actions dans la Compagnie des Indes, qui justement prospérait sur le trafic des esclaves. Alors, une ministre chargée de nous aider à nous séparer des énergies fossiles, qui n'est pas indifférente à l'avenir de ses enfants, qui, à la place d'un livret A, comme vous et moi, mon cher Adil, ont des actions dans des puits de pétrole, c'est de la gnognotte, à côté de l'humaniste Voltaire, qui profitait, lui, du trafic des esclaves.
C'est le docteur.
J'espère que je finirai par avoir la Légion d'honneur pour service rendu.
J'espère aussi, je vous le souhaite.
D'ailleurs, mon cher Adil, j'ai une autre exclusivité pour vous.
Oui.
Darmanin vient d'acheter des actions dans diverses compagnies aériennes avant de lancer un grand plan d'expulsion des clandestins. Mais gardez-le pour vous.
Oui.
Je voulais vous faire un autre parallèle un peu risqué là aussi, et je vais commencer par chanter très mal une chanson qui sera d'actualité dans 2 mois. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantez tous son avènement. Vous ne voyez pas de qui je parle, Adil ?
Oui, très bien, on le chantait là justement avec notre commandant de la police. Là. Hein ? Tu connais la chanson par cœur.
Ah bah évidemment, il a grandi comme moi avec Kino Rossi. Je vous donne un indice supplémentaire. Le Club des 27, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison. Toutes ces célébrités du rock sont entrées dans une gloire éternelle à l'âge de 27 ans. Ce qui est l'âge du nouveau leader du Rassemblement National désigné cette semaine. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un bon petit gars de chez nous, d'origine italienne, mais avec un grand-mère demi-algérienne qui a grandi en Seine-Saint-Denis, prendre la tête d'un futur parti de gouvernement. Un vrai petit gars issu de la diversité. Prenez-en des leçons, monsieur Macron. Et c'est vrai qu'il a une bonne tête. Et que c'est le symbole de cette jeunesse qui vote de plus en plus Rassemblement National. Ces deux obsessions sont la crise écologique, mais surtout le grand remplacement ou l'invasion migratoire. Et il faut savoir que derrière l'arrêt sur le côté et le costume se cachent les bombers des identitaires dont il est entouré, ou d'ex-Guidard qui gère sa communication. il sera probablement plus radical que Marine Le Pen, qui avait entrepris une dédiabolisation du parti et dont il se dit un soutien. Mais qui sait ? Il finira peut-être comme Bruno Maigret en son temps ou Florian Philippot, qui se sentant poussé des ailes, ont voulu être autre chose que les éternels dauphins. Et on lui rappellera donc la phrase du grand-père de sa femme, puisqu'il vit avec la petite fille de Marine Le Pen, le destin des dauphins est parfois de s'échouer sur la plage.
Ah, on peut l'applaudir, bravo. Bravo, bravo mon cher docteur Majid Soussine, comme chaque mercredi, c'est une, évidemment, voilà, on vit des, avec votre billet d'humeur, vous nous embarquez. Bravo à vous mon cher docteur.
À votre service.
À la semaine prochaine, sans faute.
Sans faute.
Allez, prenez soin de vous, mon cher docteur Majid Soussine. Merci à vous. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes avec notamment nos auditeurs 01 53 48 3000, mais également le face-à-face.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h43, avant de retrouver les informés avec nos débattants influenceurs qui sont impatients de s'emparer du micro. Justement, notre ex-commandant de la police, lui, il est toujours, il se retient, il est là, il se dit, ah, j'ai envie d'en découdre avec ton micro, lâche-le, ouvre-le. Je le vois, il est tout à l'heure, il est là.
Bon. Non, mais c'est
comme un gamin qui bouge dans tous les sens.
Oui, mais c'est intéressant ce que disait l'invité déjà sur la
téléphonie. Ouais, c'est vrai, absolument. Il est où Ahmed Doran? Il y avait Ahmed Doran, il est passé où? Ahmed, en plus on voulait parler avec Rouen justement sur l'affaire du Grand Queville, justement. Ahmed Doran, faut nous rappeler, 01 53 48 3000. Bon, et ben justement, vous n'hésitez pas, allez, 01 53 48 3000, les auditeurs ont toujours la parole, vous êtes prioritaires, le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Et le face-à-face, c'est avec, justement, l'ancien commandant de la police, mais également... Vous êtes président aussi d'une association police.
Alors, bonsoir à tous, là, parce que vous m'attaquez de plein pot, là, ce soir, Adil.
Je suis pas président. Mignon, non, qui aime bien,
châtie bien. Exactement, et je vous en remercie.
Porte-parole
d'une union de policiers indépendants, une union qui est née, une association qui est née au moment des policiers en colère, vous savez, en 2016. Ouais. Et c'est d'ailleurs la seule association qui perdure.
Double casquette, ancien commandant de la police, voilà, porte-parole de l'association des anciens...
De l'Union des policiers indépendants, hors syndicat, hors parti politique.
Autre casquette, comédien.
Des fois, il m'arrive d'écrire aussi des choses, des pièces.
Vous vous reposez quand?
La semaine dernière, cette semaine, j'étais à Rome où j'ai suivi les actualités du bateau.
Le mec, il est sur tous les fronts.
La vie est courte.
Vous avez raison, c'est dans la tête. Hein.
J'ai plus les artères aussi.
À vos côtés, justement, il y en a aussi. Il va à 100 à l'heure. Ouais. Il s'appelle Gamal Abina. Bonjour Gamal.
Bonjour, vous allez bien?
Lui aussi, je sais jamais comment le présenter. Il a 15 000 casquettes.
Entrepreneur, chef d'entreprise.
Porte-parole d'une association, lui aussi, pareil.
Ouais, surtout.
Des policiers indépendants aussi.
Qu'est-ce qui s'est passé, Gamal Abina? Vous avez changé de place.
Non, je suis arrivé en retard. Donc,
vous avez osé, Ménaz, prendre la place de Gamal Abina. Vous savez qu'il a... Non, mais attendez, il a des tocs, hein, Gamal Abina. Il a des petites manies, vous savez. Là, je vous jure, c'est quoi, il va vous abattre.
Je suis dans l'inclusion, je suis tout à fait disposé pendant la pub à lui.
Mais il a ses trucs. Il vient, il place son portable comme ça, sa bouteille comme ça, son truc.
Un truc de robot.
On verra quelle performance.
Vous savez quoi, vous l'avez déstabilisé, notre Gamal Abina. Il est complètement déstabilisé aujourd'hui. Ménaïr, comment ça va?
Ménaïr ou Chenir plutôt. Il va contracter mon nom aussi dans tous les sens.
On sent que c'est la grève demain.
Ah non, mais il est fatigué. Il est fatigué. D'ailleurs, il a failli rater la reprise.
Un petit coup de pompe.
J'ai dit quoi, monsieur Chenir?
Est-ce que je peux prendre un peu les manettes et lui déclencher une clochette, s'il vous plaît?
Clochette.
Parce que là.
Double clochette.
On va vous aider.
Oh mon dieu!
Et une perfusion de caféine.
L'émission part en cacahuète. Je suis désolé, monsieur Ouchenir. J'ai dit quoi?
Ménaïr. Vous avez fait un mix. Vous avez fait, je sais pas ce que c'est.
Mais c'est bien aussi.
C'est
bien aussi.
De noms.
Non, mais ça passe bien aussi.
Ouais, ça,
voilà.
Ça le fait. C'est un nom Star Wars.
Ça peut être un pseudo aussi.
Quelque
ça.
Chose, oui.
Ah non, mon dieu, j'ai chaud. J'ai chaud dans les studios.
Non,
mais Ménad, là, il est chaud ce soir.
Vous allez peut-être le présenter.
Bah, Ménad Ouchenir.
Oui. Ah bah,
oui, mais j'ai dit autre chose, moi. C'est mon subconscient qui a fait un mix. Il a fait une tchouk-tchouka. Ancien élu.
Ouais. De
la ville de Bounbini.
De Rony-sous-Bois.
Rony
ça y est, mais je crois qu'on a perdu là.
Allez, mec,
Melun, c'était bien aussi.
Melun, j'arrête. J'abandonne avec vous.
67 ans.
J'abandonne. Si, ce que je sais, il est consultant numérique.
Ça, c'est bon.
Ça, c'est bon.
Il y a au moins un truc.
Bravo.
Bientôt, je vais dire ancien président de la République.
Il a le temps.
Tant que vous ne dites pas futur,
ça va être dans le dos. On rigole bien avec vous, hein.
Ah, bah, avec vous aussi,
j'ai chaud. J'ai chaud, là. Mais j'ai chaud, là. Ouf, oh là là, là, mais là j'ai chaud là, vous savez. Ah ouais, j'ai envie de me mettre en t-shirt maintenant.
C'est, ça, ouais. Ouf, c'est dommage qu'ils ne le voient pas, les auditeurs. Mais c'est...
Ouais, alors on va installer des caméras.
Ce serait bien.
Jim Aketan, faut nous mettre des caméras. Je m'adresse à la patronne. C'est une forte demande des débatteurs influenceurs.
Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, ce serait pas mal.
Bah, redites-lui, vous
êtes. Ce serait très bien des caméras, comme chez Europe 1, comme chez RTL. Voilà. Absolument. Et il s'y passe parfois des choses bien plus intéressantes ici, je crois.
Absolument. J'aime bien Anthony. On va se calmer, Anthony, le réalisateur. Il me fait des signes tous les 5 minutes. Il me dit pub.
Ah bah y a des pubs, hey,
hein, si tu veux, valeur. Je rends l'antenne même. Hein. On fait que de la pub. Hein. Non mais vous attestez. Je viens de prendre l'antenne là.
On peut attester.
Il me fait un signe. Il dit 5 minutes. On va se calmer, Anthony. On se calme.
J'ai une pub de France. Je peux pas l'envoyer en retard.
Non mais on se calme, Anthony. Je viens de prendre l'antenne.
Et on a plein de choses à évoquer.
Allez, 10% en médecine, justement 20% pour les infirmiers. L'abandon des études médicales est préoccupante. Oui, pour cause, précarité, maltraitance. Vous savez, c'est la pénurie en ce moment, et on en parle depuis la crise du Covid. Mais là, c'est pire en pire.
Mais oui, c'est pire en pire. Oui, c'est tout pire à fait.
Non mais attendez.
Non mais ce qui démontre bien
dit,
que
c'est des chiffres.
Oui, mais moi je
Jean-Pierre Colombiès.
Je peux en attester personnellement parce que quelqu'un de très proche dans ma famille qui est médecin.
Oui.
C'est ma fille et qui est interne. Et d'ailleurs, je salue au passage quelqu'un qui.
Bon, on peut l'appeler pour lui poser la question.
Non. Qui est peut-être un auditeur de chez vous. Du reste, c'est le président, et je vous invite à l'inviter, du syndicat des internes, qui est régulièrement.
Et déjà venu par téléphone, on l'a eu.
Eh bien, écoutez, ce serait bien même qu'il revienne, parce que là, il a effectivement beaucoup de choses à dire et beaucoup de courage, parce que les internes sont aussi une profession maltraitée, très maltraitée. Et bien évidemment, le malaise on l'a dit hors antenne, on peut le répéter 100 fois, il faut le répéter.
Le personnel soignant.
Le personnel soignant est maltraité, mais parce que l'institution des soignants est maltraitée et il faut la défendre. Ce qui est la démonstration, une fois de plus, vous allez dire je suis mauvaise langue, c'est pas grave, j'ai double clochette, que le Ségur n'a servi strictement à rien. Comme toutes les inventions macronistes de ces dernières années. On a évoqué des problèmes qui étaient déjà identifiés auparavant, parce que tout le monde savait très bien depuis très longtemps.
Mais sauf que là, on parle de maltraitance, hein. C'est pas bon du tout,
c'est pas bon signe.
C'est
quoi, Madi, de la maltraitance? Elle peut être institutionnelle, la maltraitance.
Non, mais c'est
du
pas
fait
bon.
Notamment d'un sous-effectif chronique. Et donc, vous êtes, c'est quoi la maltraitance? Vous êtes rappelé sur vos congés, vous êtes mis sous pression en permanence, et les jeunes étudiants qui sont dans les écoles, c'est de cela aussi dont on parle principalement aujourd'hui, le voient bien au travers des stages.
Attendez, pardonnez-moi. Sauf que l'enjeu, il se place pas là. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie pénurie. Oui. Et qu'on est inquiet pour l'avenir, les hôpitaux vont très très mal, et qu'aujourd'hui il y a 10% des médecins qui veulent abandonner, qui abandonnent, et qu'on a 20% des infirmières qui aussi lâchent l'affaire. Où va-t-on
dans le mur? Revalorisons les carrières, donnons du sens au métier. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, prendre le problème à bras le corps et arrêter de faire des phrases et arrêter de macroner.
Alors, il est en colère.
Oui.
Gamal Abina.
Et vous, les parents. Moi, ça m'a toujours fait rigoler.
J'arrive, monsieur Ochenir.
Ochenir, oui. Non, j'allais dire qu'à force de faire les Ségur et les Grenelles, bon, on fait toutes les stations métro comme ça, on va nulle part. Hein. Faut être très, très sérieux là-dessus. Il y en a mort de rire, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème, effectivement, par rapport à ce milieu-là. Ils ont annoncé des chiffres assez calamiteux. Et les raisons pour lesquelles ça arrive. C'est-à-dire que la plupart de ces étudiants, ils sont 30 000 par an, qui rentrent dans ces instituts pour être infirmiers, infirmières, et bien 20 000 d'entre eux abandonnent. Il y a 30 000 étudiants par an, 20 000 qui abandonnent, c'est-à-dire qu'il y a 6 000 personnes qui sont perdues pour
c'est
le
beaucoup,
marché
hein.
C'est de l'emploi. C'est pareil pour le secteur effectivement médical, la médecine, puisque c'est 10% de gens qui abandonnent, pour deux raisons. La première, c'est la maltraitance, on en a parlé. C'est-à-dire que quand ils arrivent, quasiment, c'est un bizutage, le stage de première année. On les envoie pas à faire un travail d'infirmiers normal, on les envoie immédiatement en gériatrie, on les envoie dans les EHPAD, donc dans les zones un peu difficiles, où il faut s'occuper des personnes âgées qui ont du mal à s'occuper d'elles-mêmes. Donc ça les dégoûte très rapidement du métier. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est qu'en plus, la région ne paye pas rapidement et trop tard, en général, leur bourse. Donc ils se retrouvent en précarisé, avec une sorte de bizutage de première année, et avec un métier qui est dévalorisé, puisque les rémunérations ne sont pas à la hauteur des ambitions qui sont affichées par ce fameux Ségur. Donc, on est sur des situations qui sont calamiteuses, sachant qu'on est passé par une crise quand même gravissime mondiale, cette fameuse pandémie, qui a démontré Alors que la France est un pays qui était quand même bien loti jusqu'à encore il y a 20 ans. Qu'aujourd'hui, la France est un pays qui a reculé sur le plan social et sur le plan du traitement hospitalier et que le personnel hospitalier est le premier impacté par ce recul. Donc c'est vrai que moi je comprends qu'il y a une désaffection et que c'est, j'ai eu un cas de figure tout à l'heure de quelqu'un qui était ingénieur, qui est d'une formation d'ingénieur et qui a abandonné parce qu'il était dans les métiers de la biologie, qui a abandonné ça pour faire des bâtiments. C'est pas une plaisanterie, hein. Aujourd'hui, il est conducteur en bâtiment parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'avenir. Donc la question qui se pose, c'est de former des gens à un prix, au prix de l'or, ça coûte cher la formation universitaire, pour en arriver à faire des métiers qui n'ont rien à voir avec leur cursus. C'est deux échecs. Le premier, c'est un échec social, c'est-à-dire que vraiment ces gens-là ne se retrouvent plus dans ce qu'ils ont espéré avoir comme vie, une vie qu'ils ont eu à bras le corps. Il faut se battre pour le concours de première année de médecine, c'est très difficile. Hein. Et deuxième chose, parce que c'est sur concours, hein, ça ne rentre pas comme ça. Et deuxième chose surtout, c'est que ces gens-là sont désabusés d'un pays qu'ils ont cru être un pays qui donnait opportunités et qui en donne de moins en moins.
Exactement, nous allons marquer juste la pause, courte pause, on se retrouve et je donne la parole cette fois-ci sans commettre d'erreur à Ménad Ouchenir. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h55, Les informés avec Jean-Pierre Colombès, avec Gamal Abina et enfin avec Ménad Ouchenir, à qui je donne la parole.
Bravo.
Concernant, exactement, concernant les infirmiers, les médecins et évidemment, et le rêve qui s'écroule.
Effectivement. Alors, on a dit l'essentiel, c'est effectivement, il y a un système de santé qui est malmené, etc. Moi, je prends un tout petit peu le contre-pied, Adil. Moi, mon point, c'est pas de savoir forcément combien abandonnent un cursus dans lequel finalement, bah, tant mieux s'ils abandonnent pour certains d'entre eux, puisque peut-être que c'était pas aussi leur vocation, c'est combien on en sort chaque année pour le système de santé. Moi, c'est plus ça que je regarde, c'est combien sont finalement formés et opérationnels. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, combien vont dans nos territoires ? Parce qu'au-delà de la simple question de l'abandon, il y a aussi la désertification médicale qui est, le deuxième effet qui se coule, ou l'arbre qui cache la forêt, puisque... Moi, c'est pas tellement le nombre de médecins que je peux avoir à côté de chez moi, parce que j'habite en région parisienne.
Quand on abandonne ses études au bout de la troisième année, c'est pas bon signe, mon cher Ménad. Même si vous regardez le côté positif, combien entre?
Mais il s'agirait d'avoir peut-être plus de monde à l'entrée, et ça, il y a eu quelques réformes là-dessus. Alors, je défends pas plus un camp que l'autre, mais notamment le fait de pouvoir intégrer les IFSI, les instituts de formation de soins infirmiers par Parcoursup, pas forcément par un concours, parce qu'on a beaucoup de gens qui peuvent potentiellement ne pas réussir le concours à quelques points, parce que les places étaient limitées. Donc, il faudrait plus de places à l'entrée. Le numerus clausus, on va pas refaire le débat ici, qui est ridiculement bas dans notre pays, et puis après, on se plaint qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc, faut travailler à l'entrée, à avoir peut-être plus de monde. Ok, il y en a qui abandonneront, ils feront autre chose, naturellement. Et en aval, s'assurer qu'on en forme beaucoup plus, pour nos, essentiellement aussi pour nos territoires. Parce que je garde vraiment à l'esprit ce problème de la désertification médicale. Et puis, entre les deux, et là je vais être aussi un peu provocant, il n'y a pas que l'hôpital public dans la vie. Il y a aussi l'hôpital privé. Et donc, on crache beaucoup sur l'hôpital privé, c'est cher, etc. Mais je suis désolé, un hôpital privé, pendant le Covid, on a pu aussi compter sur eux. Alors, à nous de créer un cadre légal, à nous, aux législateurs, de créer un cadre légal qui permette de solliciter le privé davantage.
Bon, mais là, vous jouez sur les mots, mon cher.
Il y a quand même besoin d'avoir plus de monde dans le public, oui, dans le privé, peut-être aussi.
Jean-Pierre Colombier.
Jérôme, c'était bien aussi. Non, j'aime bien Jérôme.
C'est pas la grande forme, c'est ça.
Non, mais il vient de mettre le doigt sur un point qui mériterait un développement encore plus important, certainement. Mais il faudrait plus de temps, machin. Mais c'est effectivement la philosophie global de l'opinion publique d'aller systématiquement, mécaniquement, j'ai envie de dire, vers l'hôpital. Absolument. Et c'est vrai que ça, c'est un mal français. Oui. Il faudrait prendre le réflexe, mais ce réflexe ne peut pas être pris parce que justement, il n'y a pas assez de médecins qui arrivent en activité dans les villes.
Ils appellent la bobologie dans les urgences.
Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ça a été dit déjà par je ne sais plus trop quel homme politique ou quelle femme politique, intelligent pour une fois, qui a dit il faut changer de paradigme. Non, c'était au niveau judiciaire que ça a été dit. Par Dupond-Moretti peut-être, mais. Je parlais de gens intelligents, c'est peut-être pas lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut véritablement changer effectivement de paradigme mental, philosophique, et d'inciter les gens à se prendre un peu plus en charge eux-mêmes avant d'aller encombrer. Parce que moi, comme tout le monde, tout un chacun, j'ai vu des salles d'attente d'hôpitaux aux urgences. Je suis certain que les deux tiers des gens qui étaient présents n'avaient strictement rien à y faire. Mais nous vivons dans une époque où, dès qu'on a un petit bobo quelque part, faut vite aller voir le médecin, faut vite aller voir l'homme ou la femme qui sait, et on se précipite dans les urgences. d'urgence et de résultats des courses, on sursature les systèmes. Un peu comme dans les commissariats du reste. Hein. C'est exactement le même phénomène. Hein. On retrouve dans les commissariats des gens qui n'ont strictement rien à y faire.
Ou alors avec des structures de santé de proximité qui ne sont pas des hôpitaux.
Qui commencent à se développer, qui existent.
C'est mon point que de dire qu'il s'agit de former davantage de monde, mais pour ça, il faut ouvrir les vannes davantage de places en entrée pour en avoir un peu plus en sortie. Il y en a qui abandonnent le milieu, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons, quand les bourses sont pas versées assez tôt ou quand ils sont malmenés pendant des stages. Ça, c'est des questions pour les stages, questions de management, et pour les bourses, c'est des questions purement administratives qui peuvent être en plus, mais facilement réglées. Il s'agirait juste de prendre le problème à bras le corps. Mais clairement, notre enjeu aujourd'hui, c'est pas le nombre qui abandonne, c'est combien on en a en entrée, combien on en a en sortie.
Et combien on les paye.
C'est lié, c'est très très lié. Et puis c'est l'offre et la demande aussi, accessoirement. Mais pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'en avoir plus en sortie,
Autre tension, c'est celle, vous savez, des migrants. Entre l'Italie et la France, il y a une grosse tension, parce qu'il y a des centaines de migrants qui sont bloqués en mer. Alors évidemment, hein, bien sûr, et chacun se renvoie évidemment à la France qui dénonce le comportement inacceptable du gouvernement Meloni. Gamal Abina.
Bon alors là, franchement, se foutre de la charité à ce point à l'hôpital... On vient parler des hôpitaux, mais là, on a un niveau stratosphérique. Hein. C'est impressionnant, parce que Mélanie est d'extrême droite, et j'approuve absolument pas le personnage, elle a annoncé ce qu'elle ferait, elle fait ce qu'elle a annoncé, que la France vient donner une leçon...
Elle reste de l'extrême droite, mais sauf que les migrants, ils restent bloqués.
Oui, c'est l'extrême droite qui parle. Elle a dit qu'elle en veut pas, donc c'était clair. Le problème qui se pose, c'est que d'abord, les bateaux qui les reçoivent, et c'est tout à leur honneur, ce sont des bateaux allemands. Les Allemands qui ont reçu 1 million de réfugiés. C'est pas des migrants. Ce sont des réfugiés de guerre ou des réfugiés économiques. Migrants, c'est des gens qui se baladent. Les réfugiés, c'est des gens qui fuient. Qui fuient la misère ou la guerre. Donc, faut utiliser les bons termes.
C'est pas la même chose.
Si, il y a migrants. La migration, c'est une volonté pour des raisons.
Non, la guerre et la misère, c'est pas la même chose.
J'entends bien.
Parce que ça ouvre des débats.
Oui, mais souvent, il y a
d'autres moyens.
Oui, mais il y a la misère qui conduit à la misère. Le Sahel, par exemple, c'est les guerres qui ont conduit à ce qu'il y ait des famines. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des liaisons. Mais ce qui se passe quand on met le terme de migrants, on a presque l'impression que c'est des gens qui se baladent. C'est pas ce qui se passe. Hein. Ils s'enfuient. C'est des gens qui prennent le risque de mourir en mer. C'est ça ce qu'on appelle les migrants. Donc c'est des réfugiés. Qu'ils soient économiques ou climatiques ou de guerre, de toute façon, ce terme n'est pas bon. Ensuite, c'est quand même incroyable que le gouvernement Macron et M. Macron, qui veut donner le sentiment qu'il est un petit peu anti-extrême droite, soi-disant, alors qu'en France, ils ont fait le travail pour que ça monte en puissance, nous explique aujourd'hui que le comportement italien qui était annoncé, il n'y a aucune surprise là-dedans, n'est pas le bon. Et j'ai envie de dire, et c'est ce que Mélanie lui a répondu, puisqu'il est si généreux que ça, qu'il le prenne ce bateau. Et là, je pense qu'on a autre chose. Parce que le débat qu'on a eu la semaine dernière, on était là, tout cela, c'était de dire qu'il fallait, la France voulait choisir, au nom d'Arman, évidemment, il va faire un choix des gens utiles et des gens inutiles, on les met dehors. Les bons, les méchants, on est vraiment dans le binaire.
C'est ce qu'il avait dit.
Voilà. Les gentils et les méchants.
Vraiment, c'est bisounours land. Et là, maintenant, ils expliquent aux Italiens, non, mais vous n'êtes pas gentils, parce que vous ne prenez pas ces méchants. Parce que du point de vue d'Armanin, c'est les méchants qui arrivent. Hein. C'est pas les gentils. Ils sont pas utiles. Hein. Ils sont pas appelés par le patronat. Ils sont pas appelés par les entreprises. C'est pas une nécessité. Donc c'est vrai que c'est très culotté de sa part. Et je trouve ça extraordinaire. Là, on est vraiment dans le grand guignol, la Commedia dell'arte en l'occurrence, puisque c'est italien, où chacun fourbit ses arguments les plus crasseux. Et j'ai envie de dire, moi qui suis fondamentalement d'extrême droite, que la position de Meloni que je déteste est la position la plus cohérente. Au moins, elle a le courage de ses idées.
Pourquoi vous avez dit d'extrême droite ?
Je suis fondamentalement anti-extrême droite. J'ai dit extrême droite ?
Oui. C'est
oh là là. Vous avez fait un beau lapsus. Double clochette. Vous avez dit moi, fondamentalement d'extrême droite.
Fondamentalement anti-extrême droite.
C'est trop tard.
C'est dit.
On peut plus rembobiner.
C'est en jouant un italien.
Gamal Abina, allez, ça y est, affiché. Jean-Pierre Colombiès.
Ouais, c'est un acte manqué, ça. Moi, je pense qu'on est quand même. L'Italie prend de plein fouet, et pas simplement depuis cette semaine, mais depuis des années, les vagues systématiques de réfugiés, climatiques ou de l'économique ou militaire, je ne les connais pas moi personnellement, les gens qui sont sur le bateau, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens totalement sincères non plus dessus. Hein. Donc il faut juger comme ça.
Sur quelle sincérité ?
Eh ben, sur le fait qu'il n'y ait pas aussi une immigration opportuniste. Tout simplement. Non, mais pourquoi on n'aborderait pas ce sujet comme ça ?
Personne n'a le choix, personne choisit de quitter son pays de son propre gré. C'est vraiment parce qu'ils sont poussés par la misère. Il y a pas de...
Je sais pas, je les connais pas.
Beaucoup de Tunisiens, beaucoup de bons.
Peut-être, mais je sais pas exactement de qui on parle. Si on parle que de l'Italie, il faut savoir quand même que ça provoque un débat colossal en Italie. Les journaux télévisés ne parlent que de ça, quasiment, entre deux matchs de foot. Et ça leur pose réellement un problème, parce que jusqu'à maintenant, c'est quand même eux et quasiment eux seuls qui prennent de plein à fouet ces vagues d'immigration transméditerranée. Donc ça pose un problème, parce que c'est vrai qu'on les a un petit peu laissés tout seuls à gérer ça. Alors que Macron fasse la morale, ben, arrêtez les gars, vous savez très bien que c'est ça, c'est son mode de communication, il aime bien faire la morale à tout le monde. Ah oui. Il l'a fait aux Allemands, il l'a fait aux Russes, il parle à Poutine, peut-être un peu plus loin pour les récupérer. Okay. Là, maintenant tout le monde va taper sur l'Italie parce qu'ils ont élu une blonde qui est un peu nationaliste sur les bords. Peut-être, je sais pas, je la connais pas non plus personnellement. Enfin, c'est facile, quoi. C'est facile. Mais non, mais c'est facile. Ils ont un problème à gérer, c'est pas
grave. Ménade Duchesnier, et ensuite, je redonne la parole à Gamal Abina.
Moi, je tiens à souligner l'ironie de la situation, puisque pour moi, c'est pas un problème italien, c'est un problème déjà européen. Et on est tous européens quand il s'agit d'aller envoyer des armes à nos amis ukrainiens. On est tous beaucoup moins européens, et puis moi qui suis fédéraliste en plus, lorsqu'il s'agit de prendre à bras le corps le sujet des bateaux de migrants. Alors l'Italie, qui est un membre de l'Union européenne, il y a le mot union dans l'Union européenne, jusqu'à preuve du contraire, premier bénéficiaire des mécanismes de solidarité de l'UE. Alors, c'est pas pour dire, comme l'ancien chef d'État, si j'étais vous, je la ramènerais pas, mais la solidarité, ils en bénéficient, de européenne. Et puis, à plus forte raison qu'ils n'ont pas fait le pari du nucléaire il y a quelques années, maintenant ils se retrouvent très embêtés, euphémisme, du point de vue énergétique, et ils bénéficieront donc, sans nul doute, d'autres mécanismes de solidarité. Que Giorgia Meloni, finalement, moi je suis pas étonné de son positionnement. Ce qui m'aurait étonné, ça aurait été le contraire, qu'elle ouvre ses bras au bateau et en prenant. C'est pas de s'envoyer, moi je lis à chaque fois les articles d'heure en heure, c'est un ping-pong entre la France, l'Italie et puis je ne sais qui d'autre. Il n'y a pas un moment où on pourrait juste, effectivement, trouver un moyen de leur venir en aide communément, de se, par exemple, répartir ces différents passagers, parce qu'il y a quand même des humains sur ce bateau, il y a quand même des gens.
Mais là, on est face à un problème politique.
Oui,
là, on
est face à un problème politique.
Oui, mais.
De discours politique.
Soit, mais le discours politique, par exemple, là, on sort de la COP27, d'accord ? Il y avait des discours, etc., mais on n'avait pas, mais des hommes et des femmes en danger de mort sur un bateau, même si il y a beaucoup d'analogies qui peuvent être faites avec la Terre, etc. Mais là, on a des gens, en ce moment même, alors on se parle, qui sont en danger, en péril imminent. Est-ce qu'on pourrait pas prendre des mesures conservatoires au titre de la solidarité européenne, quitte à voir ce qu'on fait ? Mais les laisser pourrir comme ça, alors ils ont un peu de soutien par d'autres ONG, etc., mais dans l'eau, me paraît juste, et c'est là moi que j'aimerais ramener le débat, assez terrible et assez cynique, que de se renvoyer ce bateau comme une vulgaire balle de ping-pong.
Sauf que Macron,
au lieu de prendre des mesures conservatoires et après d'aller se batailler sur le plan juridique ou politique sur le plan européen.
Non mais ça c'est un point de vue humaniste, il n'y a pas de souci et on peut y adhérer. Sauf que Macron a le problème que d'autres ont, c'est-à-dire un problème de politique intérieure.
Absolument.
Et que si il prend effectivement
pour
ce
pas
parti,
déplaire à certains.
Mais il sait très bien que si en plus il dissout l'Assemblée nationale, parce que ça tourne autour de leur petite tête de dissoudre l'Assemblée nationale, le Front National, enfin le Rassemblement National, l'absus révélateur,
c'est
mais
pareil.
Moins grave que le sien, hein, quand même. le Rassemblement National passera de 90 à 180 députés, tout simplement.
Et Olivier Véran, il dit que ce bateau a vocation à être accueilli en Italie.
Alors bien sûr,
et l'Italie dit qu'il a vocation à être accueilli en France. C'est le ping-pong dont je vous parlais.
Une chose essentielle, parce qu'il faut revenir à la genèse de tout ça, quand même, c'est intéressant, la genèse. Qui sont ces migrants ? Commençons par qui a détruit la Libye pour que cette explosion de migration, on le connaît très bien, on le déteste de la même façon, pour cette explosion de migration arrive. Il y a eu la France, effectivement, de Sarkozy, et l'Angleterre, il y a eu l'Angleterre.
Les États-Unis aussi.
Les États-Unis et l'Italie.
D'avant, le phénomène existait d'avant.
Non, la massification de cela sur la botte italienne, c'est à partir de la destruction de la Libye, parce que la Libye recevait 1 million de travailleurs africains, et que du jour au lendemain, ils ont été maltraités, et que Kadhafi leur avait expliqué avant la guerre, il leur a dit, faites attention, parce que si vous m'attaquez, les vannes de l'immigration
le verrou va sauter.
Et il ne s'est pas trompé. Donc la Libye était un Eldorado pour les Africains qui y bossaient dignement. Ils ont détruit ce pays. Aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Donc moi, j'ai envie de dire que, comme M. Macron, qui est l'héritier, bon, pas directement de Sarkozy, mais tout de même, il est conseillé par ce sombre personnage.
On est très proche.
Très trop même, à mon sens. On l'a vu à la mosquée de Paris, ça m'a donné vraiment des frissons. Quand M. Macron est conseillé par M. Sarkozy, qu'il se rappelle que le responsable de cette migration massive, c'est M. Sarkozy qui voulait la guerre en Libye. Donc aujourd'hui, qu'il récolte le fruit de ce qu'ils ont semé, c'est logique. Maintenant, la solidarité, effectivement, les mesures conservatoires ne sont pas une mauvaise idée. La solidarité européenne, moi je dis que la seule qui existe au demeurant aujourd'hui, c'est l'Allemagne, qui a montré un visage digne, parce que les Allemands, ils ont un passé qui n'est pas très noble, et aujourd'hui, ils se rattrapent. Alors que Le reste de l'Europe se dit, on est affranchi de ces problématiques. Aujourd'hui, l'extrême droite pousse partout, très puissamment, sauf en Allemagne, demeurant. Et aujourd'hui, cette extrême droite profite du fait que la migration massive, qu'elle soit économique, écologique ou militaire, pour des raisons de sécurité dans les pays d'origine, la Syrie par exemple, combien de migrants syriens sont partis? 2 millions de Syriens. Qui est responsable de l'extrême droite en Syrie?
Il vient de prononcer le nom d'un pays. Moi, je suis désolé, je suis pas du tout d'accord avec lui. L'Allemagne n'est plus aussi, ne fait plus autant partie de ce bloc européen aussi indissociable. On a bien compris. Non, mais d'abord, eux, ils sont pas concernés directement, puisque le front du problème, c'est quoi? C'est l'Europe du Sud, donc Italie, Grèce, France, Espagne. Basta. Et c'est tout, rien que ça. L'Allemagne, en ce moment, elle prend ses distances avec tout ce petit monde, parce qu'elle elle aussi, un peu comme la Chine, a envie d'une hégémonie européenne. Exact. L'Allemagne réarme, c'est pas pour rien. L'Allemagne a pleinement conscience de son potentiel économique, parce que son immigration, contrairement à ce que tu viens de dire, elle la maîtrise, malgré tout, d'une certaine manière. Les contrats turcs, c'est pas une légende, ils ont pas fait ce que nous avons fait, c'est-à-dire le regroupement familial, les migrations de masse. Ils ont resté dans la maîtrise.
Ils sont dans la maîtrise
du mouvement migratoire, et je rappelle que Calais, c'est pas en Allemagne, et que les gens qui viennent, qui traversent l'Italie et la France, ils veulent aller en Angleterre, ils veulent pas aller en Allemagne. Donc ils voient pas les choses de la même façon.
Les Syriens sont en Allemagne aujourd'hui, on le sait. Il y a 1 million de Syriens. Il y a 4 millions de Turcs. Ça va, l'Allemagne, pour ce qui concerne l'absorption des immigrés, c'est 5 millions.
Non, mais la relation Allemagne-Turquie, c'est une vieille relation
néocoloniale. C'est une relation d'amitié.
Pas du tout, c'est une relation d'amitié militaire, amicale. Hein, ils auraient tout le temps été, alliés.
Rappelons que les bateaux qui reçoivent l'immigrant sont allemands.
Non, mais tout ça se tient quelque part, je veux dire. Et ils la maîtrisent, leur communauté turque en Allemagne. Ils se sentent, je pense qu'ils sont assez bien intégrés en Allemagne.
Mélade.
Mais voilà, on peut pas comparer, faut comparer les choses qui sont comparables.
Mélade.
C'est l'humaniste aussi qui parle, je vous le redis. C'est que tout ce débat d'ailleurs n'est pas interdit. Les nationalistes contre les plus humanistes ou autres. Mais en attendant, simplement, il s'agirait que l'Union européenne en tant que telle, et c'est pour ça que je dis souvent que je suis fédéraliste. Si on avait une Europe fédérale, on enverrait un soutien fédéral, c'est-à-dire que ce serait la faute un peu à personne, ce serait pas la France, ce serait pas l'Italie, etc. Aujourd'hui, on n'est pas assez fédéré dans l'Union européenne pour pouvoir avoir un mécanisme d'action qui irait prendre des mesures conservatoires dans ce genre de situation, et puis qui accessoirement, ça servirait aussi de caution pour pas se faire, pour les chefs d'État des différents États, de pas se faire taper dessus par leurs électorats respectifs. Donc on n'est pas encore assez fédéré pour faire face à ce genre de problème. Et de l'autre côté, effectivement, on est un peu trop divisé avec effectivement quelques volontés hégémoniques grandissantes pour qu'un État, finalement, fasse un pas en avant, se démarque et prenne le sujet à bras le corps.
Et si cette Union humaniste européenne prenait le problème d'un autre côté, de l'autre point de vue, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire en sécurisant déjà les côtes africaines, qui sont une véritable passoire, tu l'as très bien dit, avec l'explosion de la Libye.
Notamment. Une Europe de la défense pourrait très bien s'en occuper. Et ce ne serait pas la France,
sécuriser,
ce serait accusé de néocolonialisme, ce ne serait pas l'Italie, ce ne serait pas la Grèce,
sécuriser les côtes,
ce serait l'Europe
africaine,
fédérale.
Et s'intéresser justement à la stabilité des pays, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, exportateurs de cette immigration, par des relations peut-être bilatérales plus poussées, mais et contraignantes.
Et c'est ce qui se passe avec certains pays. On entendait parler de la Tunisie, par exemple, qui a fait des efforts dans ce domaine. Il y a des discussions, même timorées, avec l'Algérie, avec le Maroc. Ça avance à pas de loup, et ça avance, pardon, pour moi, dans un cadre qui n'est pas à la bonne échelle, puisque c'est une relation plutôt avec la France que l'Union européenne, même si la France a sa place prépondérante dans l'Union européenne.
Le Mali, l'Érythrée, le Soudan, ces pays-là, d'où viennent beaucoup
de ces pays-là.
Gamal Abina, avant de passer au troisième sujet, s'il vous plaît, parce que je veux qu'on avance.
Et on voit bien quand l'Afrique du Nord est en train un peu de jouer des supplétifs, ce qui est dommage. Rappelons-nous ce qui s'est passé quand au Maroc. C'est-à-dire que les Marocains ne sont pas des barbares qui vont tuer les Noirs, c'est pas le problème. Ils ont exécuté des ordres que l'Europe leur demandait de faire, moyennant finance. Il y a toujours un financement derrière. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que ces êtres humains, parce que c'est vrai que de rappeler que c'est quand même des êtres humains, qui fuient la misère, la guerre, ce qu'on voudra.
Peu importe.
De pays qui ont été détruits, je rappelle que ce soit le Soudan, la Libye, ça fait quand même beaucoup de pays détruits par l'Amérique et l'Occident. Ces pays-là mériteraient peut-être un autre sort. Moi, je pense qu'on ne peut pas jouer la carte de la zone tampon avec les pays d'Afrique du Nord qui vont finir par être détestés par leurs frères subsahariens pour une Europe qui fait pas son travail. Donc je pense que si l'Europe veut sécuriser, entre guillemets, empêcher ces migrations et ces morts inutiles.
Anarchique,
il meurt par milliers. J'ai un copain qui s'appelle Rachid Koraïchi, qui est artiste international connu d'origine algérienne.
Qui était à l'antenne.
Oui, absolument. Il a fait faire un cimetière en Tunisie, dans le sud de la Tunisie, à Zarzis. Oui. Absolument. Parce qu'il a constaté que 1500 cadavres étaient jetés sur la côte.
Très beau reportage.
Et bien, cet homme-là l'a fait avec ses propres deniers, parce que c'est son cœur qui saignait. Et je le comprends. 1500 personnes. Vous imaginez l'échelle, et ça, c'est rien. C'est une goutte d'eau par rapport à ce qui arrive.
Absolument.
Messieurs, avant de marquer la pause, justement, je voudrais qu'on aborde, vous savez quoi, que la CGT, ça y est, demain, c'est une grève. S'agit-il, vers une grève d'un jeudi noir? Je voudrais qu'on parle de l'augmentation des salaires. C'est pour ça que d'ailleurs, la CGT appelle à une grève nationale. Alors, pour de meilleurs salaires, pour des conditions de travail plus proches d'une réalité d'aujourd'hui avec l'inflation. Messieurs, un tour de table. Bah, qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre ?
Non, je crois que c'était pas au programme. Je suis désolé, je me fouette, je m'autoflagelle. Je reviens de Rome, donc je suis pour la punition. Là.
Tu vas aller voir Giorgia Meloni ?
Voilà, ouais. C'est ça. Elle était pas.
On marque une pause et on se retrouve tout de suite dans une poignée de minutes avec justement ce sujet de demain. Faites très attention, organisez-vous, faites en sorte, évidemment, si vous allez au boulot, parce que ça risque d'être un peu compliqué. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite dans Les Informés, avec notamment Jean-Pierre Colombiès, mais aussi Galabina, et surtout, et bien tout simplement, Ménad Ouchenir, 19h22. La CGT, elle, demain, est-ce qu'on s'oriente vers un jeudi noir? Et notamment, franchement, les syndicats, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent tout simplement à des conditions meilleures salariales, c'est-à-dire une revalorisation salariale, donc ce qui veut dire de facto l'augmentation des salaires. Est-ce qu'ils ont raison de bloquer la France et de se mettre en grève? Jean-Pierre Colombiès.
Une réponse simple.
Ce que vous voulez.
Oui.
Mais il faut qu'on en parle.
Oui, bon, on en parle, oui. Et je trouve que, à mon sens, ça devrait être encore plus large. Parce qu'on ne peut pas accepter de voir d'un côté une explosion des super profits liés à la rente et à la rémunération de l'actionnariat.
Ce qui veut dire, alors, dans ce cas-là, si on augmente les salaires, on augmente le SMIC.
Et ben pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Non mais faut arrêter de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'argent. Faut arrêter. On produit beaucoup de richesses en France. On en produit énormément. Simplement, elle est très mal répartie. Elle n'est pas pour tout le monde. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de culpabiliser ceux qui font des mouvements sociaux, et d'ailleurs au bénéfice de tous, contre justement une hyper rémunération à une extrême minorité d'individus. Pour moi, aujourd'hui, ça n'est plus entendable.
Gamal Amina.
Alors, je prends une claque, je m'attendais pas à cette réponse de Jean-Pierre, donc chapeau, mais je suis pas d'accord.
Dites-nous.
Je suis pas d'accord, pas parce qu'il faut que les pauvres restent pauvres, ça je suis opposé à ça, là-dessus on se rejoint. Je pense que la stratégie d'augmentation des salaires est une erreur stratégique en économie quand on sait comment fonctionne la mécanique de l'inflation qui est incontrôlée, on sait pas jusqu'où on va aller. L'augmentation des salaires va induire immédiatement l'augmentation des prix, donc de l'inflation, parce que quand on augmente des salaires de travailleurs pour la production industrielle, par exemple, pour la production d'agro-industrie ou de n'importe quelle de production, eh bien, conséquence directe, c'est que le producteur qui augmente ses salaires va augmenter le coût de la vente.
Oui, c'est vrai.
D'accord, enfin, le prix de vente. Et le prix de vente serait
perdu sur le consommateur. C'est déjà le cas.
Non, là, aujourd'hui, on spécule. C'est ça qui est dégueulasse. Et c'est pour ça que je pense que la solution n'est pas l'augmentation des prix, mais le contrôle des prix. C'est-à-dire que si on continue ça, on va tomber dans une spirale infernale des années 80, je te rappelle, Jean-Pierre.
Bah oui, mais.
Où on augmente les prix, on augmente les salaires, on augmente les prix des salaires. Je rappelle que, et c'est là où je suis opposé à ça, que ceux qui travaillent vont bénéficier, d'abord les fonctionnaires pour commencer, puisque qui les premiers vont bénéficier de cette augmentation, les secteurs privés beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas de réglementation, on ne peut pas imposer au privé l'augmentation des prix, des salaires, excusez-moi, et surtout ceux qui ne travaillent pas, c'est ça qui m'écœure dans l'image, c'est que ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage, qui sont les petits vieux avec leur retraite qui ne bougent pas et qui restera toujours au même niveau, eh bien eux ne bénéficieront d'aucune augmentation et continueront à avoir les conditions de vie dégradées. Donc je pense aujourd'hui que si ce gouvernement est un peu sérieux, il doit rétablir impérativement, parce que les spéculateurs sont là, le contrôle des prix. On ne doit pas augmenter les salaires, mais réduire
Il ne le fait pas.
Ils sont pas sérieux.
Il ne le fait pas. Ça rappelle. Cette conversation, tu sais à quoi elle renvoie? Elle renvoie à 1789, ouais, où justement les prix avaient augmenté et on n'avait pas garanti. Et la révolution avait imposé ce qu'on appelait la loi du maximum, c'est-à-dire la limitation contrôlée par l'État des prix à la consommation.
Bon, 46 sous De Gaulle, tu peux y aller.
Exactement.
C'est pas communiste.
Non, mais voilà. Non, mais stop. Le problème, il est là. C'est que ce gouvernement 44. laisse filer la spéculation sur des prix. Je suis désolé, il y a des prix de biens de consommation qui n'ont pas à augmenter et ils augmentent. Et bien évidemment,
L'arme,
c'est quoi? Bah, c'est de.
On fait quoi alors, Gamal Abina?
Imposer le contrôle des prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agents de l'État qui doivent vérifier que ceux qui vendent les produits les vendent au prix juste. Le problème du capitalisme délirant, moi je suis pas anticapitaliste, mais il y a des limites quand même. De dire si on est
contre. Si je vous écoute, pas d'augmentation de salaire, pas de primes.
Non, c'est bien.
Non, mais contrôle des prix. Le contrôle des prix.
Il faut le contrôle des prix. Les primes, c'est normal. On travaille, on a des primes. Le contrôle des prix, ça empêche que les plus fragiles, qui n'ont pas de salaire, je parle de ceux qui n'ont rien, que cela soit protégé. Parce qu'on doit protéger ceux qui n'ont pas de salaire. Moi, j'aime bien qu'on augmente les gens de la RATP, SNCF, c'est mignon. C'est le privé, c'est le public. Mais si on ne contrôle pas les prix, les spéculateurs s'amuseront. Je pense que l'État devrait imposer des contrôles avec une section spéciale qui irait voir les producteurs, par exemple, d'huile de table. On est compte ce qui s'est passé avec l'huile de table.
Oui.
L'augmentation délirante, alors qu'elle n'était pas justifiée. Depuis quand l'huile de table est fabriquée en Ukraine? Faut arrêter de dire. Le pain. La France est un des plus grands pays producteurs de céréales au monde. Le pain augmente. Est-ce que c'est normal? N'importe quelle denrée alimentaire de base doit être contrôlée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui.
Donc on spécule.
On ne doit pas spéculer. On spécule actuellement et on doit empêcher la spéculation. Oui. C'est en cela que je dis, Leclerc, c'est quand même pas le dernier capitaliste. Il est le premier à le dénoncer. Eh bien, je dis oui, il faut suivre Leclerc là-dessus.
Mais là, d'où chenir? Ah!
Ah, comme vous dites. Alors, moi, j'ai un problème avec la CGT, qui c'est pas tellement. Non, mais je vous le dis, c'est les méthodes. Moi, c'est pas la lutte, les salaires, etc. Naturellement, il y a quelque chose qui va pas. Et puis vous avez dit l'essentiel. Je vais pas reprendre mon propos, mais effectivement, surveiller la façon, les mécanismes. J'en ai parlé plusieurs fois ici, dont les prix sont revus par, notamment dans la grande distrib, mais pas que. Mais moi, c'est la méthode, c'est d'aller. Alors, CGT qui dit qu'ils œuvrent pour tous les travailleurs, c'est mais la CGT, les premiers sur qui ils tapent, c'est les petits travailleurs. Ceux qui prennent le métro, pardon, c'est pas forcément ce qu'ils appellent, eux, je mets des guillemets, les grands bourgeois. Donc, je le redis, il y a toujours des façons de faire grève plus intelligentes, mais ça, CGT, c'est pas encore monté au cerveau.
Grève du zèle, par exemple.
Grève du zèle, ouvrez tout, c'est gratuit, dans les transports, etc. Vous mettez l'opinion publique de votre côté, vous faites du mal au patron, vraiment. Donc ça, ils le feront jamais. Parce que qu'est-ce qu'il y a aussi? Agenda politique. 8 et 15 décembre, élection professionnelle de la fonction publique. Donc, où la CGT s'est pris un tollé il y a 4 ans. Et puis rappelons qu'aujourd'hui, la CGT n'est plus... Il y a que 7,7% de travailleurs syndiqués en France. Voilà.
Ce qui est pas normal. Hein.
La CGT. Alors, ça, je suis d'accord. On devrait. Alors, et là, c'est le libéral qui vous parle, parce que oublions pas les origines du syndicalisme, Bastia, etc. On part faire l'histoire. Moi, je suis un libéral et je vous dis, on devrait effectivement être.
Il était élu sur quelle liste, en fait?
Et pas à gaucher sûr.
On pourra en reparler, Jean-Pierre, avec grand plaisir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on avait davantage de monde syndiqué, effectivement, ce serait plus intéressant. Mais la CGT est le deuxième, et passé deuxième après la CFDT. Donc, ils sont dans la reconquête. C'est quoi? C'est une campagne électorale, c'est un meeting demain. C'est pas une manif, c'est un meeting. Et c'est aussi une levée de fonds pour les employés de la CGT.
Alors, je voudrais...
et la CGT elle-même. Donc,
un mot, s'il vous plaît, avant de rentrer dans l'antenne. Il nous reste 2 minutes. Vous avez quelques secondes. Je voudrais vraiment qu'on parle des mi-mandats, justement, aux États-Unis, avec Trump, cette bataille qui s'installe entre Trump et Joe Biden. Et on ne sait pas d'ailleurs, parce que le dépouillement se poursuit. Oui, et puis la victoire, chacun crie victoire. Joe Biden d'un côté, Trump de l'autre. Alors, que doit-on dire en quelques secondes?
Très vite. C'est pas la
Jean-Pierre, Colombiès.
C'est pas la victoire de Trump, c'est une victoire relative des républicains et une défaite relative des démocrates. On ne va pas développer plus, on n'a que 2 minutes. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que ça peut déterminer, ça peut influencer toute la politique étrangère des États-Unis.
Gamal.
Moi, je pense que ça va être une victoire de Trump, parce qu'il était très décrié, de fait. Alors, ce n'est pas une grande victoire, je suis d'accord.
Mais ce n'est pas lui, personnellement.
Non, non, c'est les républicains. Mais Trump est celui qui veut remporter la mise. Et on a bien compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, le curseur est en Ukraine. C'est-à-dire que les fautes de Biden aujourd'hui se traduisent en termes électoraux, sans parler des
questions que en Chine, mais bon.
Oui, enfin, la Chine, c'est autre chose. Donc il y a 2 zones de tension. Biden est un 20 ans guerrier, connu pour ça, malheureusement. Donc aujourd'hui, il est obligé de freiner un peu des cas de fer, parce que malheureusement pour lui, ça se traduit mal en termes électoraux.
Ménade, enfin.
Les midterms, donc il est rare que le président en place gagne les midterms aux États-Unis. Hein, dans l'histoire contemporaine, c'est arrivé, je crois, pas du tout, très peu.
Pas du tout.
Donc en l'occurrence, voilà. Donc,
jamais.
Là, donc pas, rien d'exceptionnel.
Même sur Roosevelt.
Et puis, juste dans les analyses que je vois là, ces derniers jours, ne regardons pas la politique américaine avec les yeux et le filtre, les prismes de la politique française. D'accord. C'est pas les mêmes institutions, c'est pas le même peuple, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même culture, et le pays est suffisamment hétérogène dans sa population.
Sauf que ça donne le ton du futur président.
Sans doute, mais ça a toujours été comme ça. En général, deuxième partie du mandat, il légifère par décret, il fait de la politique étrangère.
Allez.
Plus qu'en première partie.
Voilà. Merci Ménadou Chénir, consultant numérique. Merci à vous. Merci à Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant au Chénir, ancien commandant de la police, mais également aussi auteur, comédien. Merci à Gamal Abina aussi également. Merci à réalisation, à Anthony, à tous les auditeurs qui nous suivent comme chaque soir, de plus en plus nombreux. Merci à vous. Bilal Lendman, 20-21, Vanessa, 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir, mais d'ici là, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.